Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés qui aujourd'hui va être un peu différente et qui ne va pas sans nous rappeler les heures noires du confinement. Le DAF arrive à vive allure à l'heure où je parle, coucou mon cœur. Et on va aujourd'hui faire une émission à distance avec notre Charles Gaffe préféré qui est avec nous, non seulement par la pensée mais aussi par l'écran. Et on va, aujourd'hui 11 novembre, car pas de pitié pour les braves, essayer de débriefer un petit peu ces élections américaines, voir ce qui s'est passé. Alors la partie véritablement élections américaines va être beaucoup plus faite par Léonard, et nous on voudrait se concentrer sur ce que ces élections américaines veulent dire pour la haute finance, ce que ces élections veulent dire pour la géopolitique internationale et quels vont être véritablement les effets pour nous, Européens. Et ensuite, on parlera aussi un petit peu de la Chine qui a fait des annonces vendredi dernier, voire certains ont été déçus sur les marchés, est-ce qu'ils ont eu raison d'être déçus? Bref, est-ce que go big or go home? On va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Donc, bonjour Charles.
Bonjour.
Ça va
Je suis
bien?
en Asie.
Tu es en Asie?
Je suis en Asie. Il fait
Il
chaud.
fait chaud.
Il fait très chaud.
Donc c'est des élections américaines et toi tu te dis allez tout le monde à l'Est.
Voilà, tout le monde à l'Est et puis en Asie. Et puis y a beaucoup de gens.
Oui.
Et je suis passé par l'Inde. Il y a aussi beaucoup de gens en Inde. C'est très étonnant. Il y a des gens partout. Et ils n'ont pas la même notion de la distance
Oui,
à
oui,
garder
oui.
entre les gens. Et tu te fais rentrer dedans, tu sais pas par qui, tu vois, il n'y a pas la même notion
De
d'un mètre dans
l'espace,
l'autre.
oui, il n'y a pas la même notion d'espace personnel. Ça, c'est quelque chose qui est très vrai quand on va en Asie. C'est que les gens envahissent un petit peu ce que toi, par exemple, quand tu fais la queue pour prendre un avion, tu te dis, tu as une espèce de notion de... Pas du tout. Les gens s'immiscent dans ça et c'est assez désarçonnant parce que tu, en tant qu'Européen, ça, voilà,
Ben, on
c'est...
est surpris parce qu'on a plein l'habitude de plus d'espace, mais enfin, ils sont pas agressifs du tout, on n'a pas peur du tout, mais c'est voilà, il y a beaucoup de gens, quoi, ils sont nombreux, quoi. Tu vois, c'est
D'autant
ce que je dis, vous prenez la Hong Kong comme centre, vous faites 3 000 km autour, il y a là, dans le cercle de 3 000 km autour de Hong Kong, vous avez à peu près la moitié de la population humaine.
il y a ça, il y a aussi, on n'a pas tous le même rapport à l'hygiène corporelle. Donc les deux se mélangeant très étrangement, ça peut faire vivre des
Non, mais
moments difficiles.
il y a aucune agressivité, c'est curieux.
Non, mais c'est juste une façon de se mouvoir qui est différente. Et d'ailleurs, pour avoir vécu en Angleterre, les Anglais ont un rapport à l'alignement, à la queue, qui est aussi différent. Nous, Français, on fait des tas.
Dès qu'ils en voient une, ils la font à tout hasard, quoi.
Ils la font à tout hasard. Ça, c'est des années de parti travailliste. Mais au-delà de ça, eux, ils savent faire une queue proprement, tandis que nous, on fait des espèces de blobs de façon déconcentrée, déconcertée. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, revenons un peu sur ces élections américaines. D'abord, bah, écoute, sans aller sur la partie de Léonard, mais quel a été ton sentiment à toi au sortir de ces urnes?
Pour moi, ça montre encore une fois l'extraordinaire différence qu'il y a entre les gens du peuple, si j'ose dire, et les gens des élites, quoi. Parce que les gens des élites, ils se sont racontés des histoires pendant 6 semaines, et moi, bon, je regardais un petit peu ce qui se passait. Il me semblait que la probabilité, d'ailleurs, je l'ai dit dans une ou deux émissions, y compris avec Bock-Côté, il me semblait que la probabilité d'un raz-de-marée trumpien était considérable. Et tout le monde m'expliquait jusqu'à l'heure où les bureaux se fermaient que ça allait être très très proche. Et moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi, mais à l'évidence, les calculs faits par nos savants spécialistes des sondages, ils sont foutus dedans comme pas possible, parce qu'il a non seulement gagné tous les États, hein, on disait où il allait avoir une difficulté, mais en plus, il a eu le vote populaire. Ce qu'avait pas fait un seul président depuis Reagan, depuis la deuxième fois. Donc c'est un vrai tremblement de terre pour la classe soi-disant intelligente. Et alors la deuxième chose, c'est que le Sénat, on savait qu'ils allaient gagner le Sénat, ça, il n'y avait pas de problème, reste la Chambre des représentants, mais il semble bien qu'ils vont avoir la Chambre des représentants. Parce qu'il reste encore, je crois, 12 ou 14, au moment où j'écris, circonscriptions à obtenir, et il leur en faut que 4 pour être majoritaire. Alors, s'il a la Chambre des représentants, le Sénat, la Cour suprême et la présidence des États-Unis, il faut bien se dire qu'il a 2 ans pour agir. Parce que dans 2 ans, il y a de nouvelles élections. Donc, c'est-à-dire que ce que disait Milton Friedman, c'est que quand quelqu'un arrivait avec un mandat, il fallait qu'il fasse tout le sale boulot dans les 100 premiers jours. Parce que après, ça recommençait à coincer partout.
Mais
Il
c'est ce que
fallait
fait.
taper sur les gens quand ils étaient encore tendres, quoi.
Mais dans les régimes chinois, c'est ce qui se passe. Ils agissent en réalité tout au début et au fur et à mesure, ils font plus rien. C'est paramétré comme ça.
Mais il a deux, et là, ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est qu'évidemment, si on regarde ça avec l'œil froid, qui devrait être celui de l'observateur de base, en fait, c'est un gouvernement, je pourrais presque dire, d'opposants démocrates d'autrefois. C'est-à-dire, vous avez Kennedy, vous avez Musk, vous avez Tulsi Gabbard, vous avez. Tout ça, c'est des gens qui, dans le temps, étaient démocrates. Et puis, ils en ont eu tellement marre des bêtises du Parti démocrate qu'ils sont passés au Parti républicain. Mais en fait, s'il y a une chose de certaine, c'est que la première présidence de Trump a été faite avec ce qu'on appelait les néocons, c'est-à-dire les types de droite habituels.
Oui, les néocons et les rhinos, les Republican in name only.
Et là, cette fois-ci, ça va vraiment être un gouvernement. On aurait appelé ça en France autrefois d'union nationale, quoi.
Avec effectivement une campagne qui a été faite de manière très différente avec des gens comme Elon Musk qui sont des libertariens. Donc on va dans des choses qui sont complètement à la marge et ça a donné un résultat très différent. Et je pense que.
Il n'est pas exclu que ce bon Elon Musk nous fasse un Milei. Milei, c'est le président argentin qui a coupé au sécateur tout ce qui dépassait, mais qui nous fasse un Milei aux États-Unis, parce que ce que disait Elon Musk, c'est que je crois qu'il y a 470 agences fédérales de réglementation de ceci ou de cela, et dit qu'on en a besoin de 10 à tout casser.
Bah, oui.
Donc les agences fédérales pour contrôler les coiffeurs, ça risque de pas durer, quoi.
Ouais. Alors, du côté de la réserve fédérale, on sait que M. Powell donc, est nommé, et normalement, c'est une entité indépendante de Trump. Il n'a pas été nommé, contrairement à ce que certains disent, par Trump. C'était un homme d'Obama, à l'origine, qui avait été mis là. Et comme ils doivent choisir dans une sorte de board des gouverneurs, il avait été appointed, certes, à l'époque par Trump, parce que bah, c'était probablement le moins mauvais dans les choix qui lui avaient
Oui,
été
et
donnés.
aussi parce qu'il était conseillé à cette époque-là par tout ce que tu appelles les rhinos et
Oui.
qu'il en faisait partie. Donc c'était un républicain un petit peu classique. Mais alors, on lui a demandé est-ce qu'il allait démissionner. Il a dit non.
Il
Est-ce
a
que le
dit
président de la
non.
République, il a dit non. Est-ce que le président de la République peut débarquer? Peut vous débarquer? Il a dit non. Donc, si tu veux, ça veut dire qu'il n'a pas du tout l'intention de s'en aller et qu'il pense qu'il est à peu près stable dans son boulot. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a, je crois, 8 ou 9 membres de la Réserve fédérale qui votent à chaque, des réserves
Oui.
fédérales, pardon, parce qu'il y a plusieurs banques, qui votent à chaque comité, tous les 2 mois, et c'est un vote à la majorité. Donc il est d'usage qu'on ne mette pas en cause le président, et les gens d'habitude suivent, mais il n'est pas sûr du tout que s'il y en a deux ou trois dans le tas là qui aimeraient bien être à la place de Powell,
Calife à la place du calife, oui, ça s'est
mais
vu.
oui, qui vont peut-être se dire je vais voter non. Et s'il y en a suffisamment qui votent non, à ce moment-là, il se retrouve dans une situation un peu difficile où son propre conseil le met en minorité.
Et donc, quelle est sa marge de manœuvre aujourd'hui? Est-ce que pour toi, parce que normalement, dans une économie telle que celle que la veut Trump et que veulent ses conseillers, on devrait assister, c'est ce qu'avait fait Reagan, à une remontée brutale des taux. Normalement, c'est ce qu'un président américain devrait faire.
Les taux devraient retourner à des niveaux de marché. On cesse de manipuler ces taux dans tous les sens. Et si jamais ça arrivait, si on retournait vers un taux de marché, d'abord les taux seraient plus hauts. Si ça se passe en même temps que
Trump.
coupe toute une série de réglementations, comme je l'ai déjà dit et écrit, la rentabilité du capital investi aux États-Unis va monter beaucoup. Et donc, ça sera plus rentable d'emprunter pour investir. Et à ce moment-là, on peut penser que les taux vont monter encore plus. Mais comme il y a une espèce d'équilibre mondial des taux, si ça se mettait à monter beaucoup, l'Europe se sentirait très très mal, quoi. Parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais l'Allemagne va pas très bien.
L'Allemagne ne va pas très bien, là, c'est oui.
L'Allemagne, c'est pas comme si on l'avait pas dit, mais ça c'est autre chose. L'Allemagne ne va pas bien, la France, c'est de pire en pire, l'Italie va plutôt mieux. Mais en même temps, ça veut dire aussi que tous les Orban de ce monde, à l'intérieur de l'Europe, se sentent
Pousser des ailes.
et soutenus par M. Trump, et donc ça affaiblit extraordinairement la position de Madame von der Leyen, quoi, c'est. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est la victoire des gens qui veulent s'occuper de leur pays sur la victoire des gens qui veulent s'occuper du monde. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, il me semble qu'on est en train d'arriver à la fin de toutes ces aventures un peu stupides tu sais,
Alors
de.
déjà, une chose importante qu'a dit Trump aussi, c'est qu'il revenait sur les accords de Paris. Donc oui, mais c'est intéressant parce que toi qui as dit depuis un moment d'acheter des actions pétrolières dans l'idée justement des cycles historiques du pétrole, ça va être encore plus suivi de façon prophétique par aujourd'hui le politique qu'est Trump. C'est-à-dire de dire, dis donc, vos histoires de moulin à vent, ça
Oui,
va bien.
absolument. On va rouvrir, par exemple, le pipeline qui était prêt entre le Canada et les États-Unis pour que le Canada fournisse du pétrole aux États-Unis, ce qui est à la place de l'envoyer par des trains ou des camions vers un port où ils partiront en Asie. Donc, ça va changer un peu la distribution du pétrole. Mais ce qui est très évident, c'est que l'Amérique du Nord, entre le Mexique, le Canada, les États-Unis avec les gaz de schiste, etc., apparaissent de plus en plus comme indépendants énergétiquement. Et que ben nous, on est en train de se rendre compte que les investissements qu'avait fait l'Allemagne dans toutes ces économies, dans toutes ces énergies nouvelles, est un vrai désastre. Et que l'Allemagne a un énorme problème de stabilité de son réseau électrique. Ça, c'est le résultat de Madame Merkel fermant les centrales nucléaires. Et donc, depuis un petit moment, toutes les choses qui se passent depuis le début de la guerre en Ukraine, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est tout ça. La conclusion finale, c'est, tu sais pas trop ce que ça va donner, mais tu sais que l'Europe va en prendre un grand coup sur la tête, quoi. Tu vois, c'est l'histoire du gars qui est dans un bar, et il y a un gros et un costaud, le gros l'insulte et il donne une claque au petit, quoi, parce qu'il se dit. C'est moins dangereux de le donner. Et on a l'impression que quoi qu'il se passe, à chaque fois, c'est l'Europe qui en prend plein la tête. Et ce crétin d'ancien Premier ministre hollandais, qui est maintenant le chef de l'OTAN, vient de dire que si les États-Unis ne voulaient plus faire la guerre en Ukraine et tout, à ce moment-là, il faudrait sortir les États-Unis de l'OTAN. On se demande ce qu'il reste. Hein, là. Il reste quoi la marine néerlandaise, mais il doit y avoir trois bateaux et deux chaloupes. Donc, si tu veux, c'est extraordinaire ce qui se passe, c'est l'écroulement de toutes ces espèces de trucs qui avaient été portés par les mains qu'elle est Attali d'un gouvernement mondial, etc. C'est en train de se ratatiner. Et comme ce rêve a été particulièrement porté en Europe, ben, c'est l'Europe qui continue sur cette espèce de rêve. Et c'est elle qui va en prendre plein la gueule, quoi. Et je sais pas ce qui va se passer pour les élections en Allemagne, mais ça va pas être joli à voir. Parce que c'est en mars, les élections en Allemagne, hein. Donc, si, tout le monde sait que si l'AFD, c'est-à-dire les lepénistes locaux, si j'ose dire, un petit peu quoi, si l'AFD et les chrétiens démocrates décidaient de gouverner ensemble, ils auraient 65% au moins du corps électoral. Et donc, on a le même paradoxe qu'en France, où on a une majorité à 65% plutôt de droite, et les espèces de lutte d'état-major en Allemagne font que la gauche est au pouvoir. Donc on a et la gauche maintenant porte cette espèce de rêve mondialiste. Donc, ce que ça veut dire du point de vue politique, géopolitique, etc., c'est tu vois une accélération extraordinaire de l'isolement de l'Europe et de la disparition de l'Europe comme un acteur dans les facteurs mondiaux, quoi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire la disparition des sociétés européennes, parce que Total, Schneider, Air Liquide, ils sont toujours là. Parce qu'ils ne font pas partie de ce rêve.
Alors, non seulement ça, mais ça, tu l'as suffisamment expliqué, parce que bien qu'on ait bougé le portefeuille de l'IDL, et on fera une émission spéciale pour revenir pour certains d'entre vous qui voulaient savoir vers où on est. Donc, on fera une émission spéciale, mais là, c'est pas le mieux de le faire en ce moment, par ce biais. Ce que je veux dire, c'est que on a de toute façon conservé des sociétés qui jouent cette croissance mondiale, et des sociétés comme Total, Schneider ou Air Liquide bénéficieront d'une croissance mondiale, quand bien même elles sont cotées à la place de Paris, mais elles jouent le monde et elles jouent cette croissance mondiale.
Et depuis très longtemps.
Et depuis, bien sûr, la nuit des temps.
C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux Français, on vous explique que la France s'est désindustrialisée, mais vous avez encore une dizaine de valeurs en Europe, en France, qui sont extraordinairement industrielles, mais qui ont pris la décision, pour des raisons que chacun comprendra, de ne plus avoir une usine en France.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont abandonné l'industrie. Donc, on est quand même mieux que les Anglais qui, eux, ont quasiment abandonné l'industrie. Nous, on n'a pas abandonné l'industrie, mais on a des sociétés industrielles qui opèrent plus chez nous. Parce que on est, ben voilà, parce que le coût du travail, parce que le coût de l'énergie, parce que tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'industrie. Donc, pour les gens qui nous écoutent, il y a une façon quand même assez facile de jouer cette croissance mondiale par l'intermédiaire de ces sociétés.
Oui. Alors, maintenant, parlons de la Chine un petit peu dans tout ça, parce que la Chine a dû quand même voir arriver Elon Musk, n'importe quoi, Donald Trump, avec des petits yeux, parce que ils ont quand même, Trump a suffisamment dit deux fois qu'il allait faire la guerre à la Chine, qu'il allait se la prendre frontalement, qu'il fallait mettre des accords protectionnistes, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, je vais te poser la question, est-ce que c'est un jeu de dupes? Est-ce que véritablement tout le monde va faire les gros yeux? Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt chacun à faire un petit peu semblant et faire des petits pas de danse les uns envers les autres vis-à-vis de leur électorat pour ensuite, ma foi, boxer aux entournures et laisser chacun faire un peu ce qu'il doit faire?
Alors, la réalité, on peut regarder la Chine d'une façon... ils sont très pragmatiques. Hein. Et d'une certaine façon, Trump aussi, il est. C'est pas un idéologue. Hein. Donc, quel est l'intérêt commun de la Chine et des États-Unis? C'est assez simple, c'est que les Chinois mettent leurs usines pour exporter aux États-Unis. Parce qu'à partir de ce moment-là, Trump, il n'a plus rien à leur dire, hein, c'est pas son problème à ce moment-là. À partir du moment où il recrée des boulots à Détroit, à Chicago, je sais pas où, il est très content. Le fait que qu'est-ce que tu veux que ça lui foute que le patron de la le capital soit détenu par des Allemands ou par des Chinois, si l'usine est dans le Middle West. Donc, il me semble que l'intérêt de la Chine, c'est de s'engager à investir en Chine. Peut-être, plutôt que d'éviter des droits de douane qui seraient élevés, c'est peut-être, mettons qu'ils fassent remonter leur monnaie de 25%, ils ont des excédents des comptes courants de quasiment 90 milliards de dollars par mois, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars par an. Donc ça veut dire que leur monnaie est probablement méchamment sous-évaluée. Donc tu fais monter ta monnaie de 25% à condition qu'on ne te mette pas de droits de douane en plus.
Oui.
Donc, et tu dis aux entreprises chinoises, vous savez quoi, si vous avez besoin de faire une usine pour vendre aux États-Unis, faites-la aux États-Unis plutôt qu'au Mexique ou au Canada, quoi. Et donc, c'est une des grandes thèses de Gafcal et de ton frère, c'est de dire que la possibilité qui existe, c'est qu'il y a une espèce de grand accord entre la Chine et l'administration Trump pour rééquilibrer le commerce mondial avec d'un côté une révélation de la monnaie chinoise et de l'autre côté les Chinois qui investissent beaucoup aux États-Unis de façon à rendre les États-Unis un peu moins dépendants du commerce
mondial. Mais il faudra que ce se fasse quand même dans un consensus entre les deux, parce que encore une fois, il n'est pas question que eux s'amusent à réévaluer leur monnaie et que derrière on leur colle un droit de douane en plus, parce que là, ça serait perdant.
Oui, un droit de douane en plus. C'est exactement ça. Donc, quand tu lis le bouquin de Trump sur l'art de la négociation, il t'explique que l'art de la négociation, c'est d'arriver à faire en faisant tu commences la négociation avec des demandes impossibles, et ensuite tu recules doucement pour faire preuve de bonne volonté vers des trucs qui sont à ton avantage, mais qui sont pas impossibles, quoi. Donc, et comme les Chinois sont pas nés de la dernière pluie non plus, et qu'ils savent un peu négocier, il est pas impossible qu'ils se mettent d'accord tous les deux sur le dos de l'Europe.
Oui. Mais parce que, dans une certaine mesure, c'est quelque chose sur lequel certains Américains les attendent Trump, cette espèce de dumping que peut faire la Chine justement commerciale. Et donc ils attendent aussi des mesures fortes pour que.
J'aime pas le mot dumping, c'est que ils sont, d'après tous les trucs qu'on fait avec nos bureaux à Pékin et tout, ils sont extraordinairement efficaces. Aujourd'hui, c'est pas qu'ils vendent des produits de mauvaise qualité, pas cher, et qui cassent le marché. C'est qu'ils vendent des produits d'une qualité supérieure à celle que nous faisons, au même prix que ceux que nous faisons. Donc c'est pas du dumping, c'est simplement qu'ils ont fait un gain de productivité dans les 4 ou 5 dernières années, dont le monde n'a pas pris conscience. Ils s'imaginent que c'est toujours la Chine qui faisait des t-shirts et des chaussures. Or, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, ils font des trains rapides, des centrales nucléaires, donc ils ont pris une espèce d'envol de qualité. Et donc, c'est très difficile de dire que c'est du dumping. C'est ça. C'est ce qu'avait dit, cette andouille de chancelier allemand quand il avait été en Chine. Il avait dit aux Chinois, mais, vous êtes beaucoup trop compétitifs. D'entendre ça de la part d'un Allemand, tu te dis, mais c'est quand même étonnant, quoi. Voilà, ça veut dire que ça va pas être facile de. Oui, si les Chinois doivent réévaluer, ça c'est tout à fait évident. Ils réévalueront d'autant plus qu'on leur mettra pas de droits de douane et qu'ils pourront établir des usines là-bas, quoi.
Donc toi, tu restes, malgré l'élection de Donald Trump, tu restes quand même très bullish sur la Chine et tu ne penses pas que...
Pour une raison très simple, je reste très bullish sur la Chine, c'est parce que toi, tu veux vendre, si tu es un industriel, tu veux vendre plus. Et aujourd'hui, qui achète plus? Quels sont les pays qui ont une forte hausse de leur niveau de vie moyen? Ben, c'est tous les pays dans ce cercle de 3 000 km autour de Hong Kong. Donc, ce que les Chinois peuvent dire, nous dire, écoutez, vous allez m'empêcher de vendre mes produits. Chez vous, il n'y a plus aucune croissance, donc je m'en fous. À la limite, bon, ça va pas être gré, mais enfin, parce que moi, ça fait 15 ans que j'investis pour investir en Indonésie, 280 millions d'habitants, aux Philippines, 120 millions d'habitants, au Vietnam, 100 millions d'habitants, en Thaïlande, 70 millions d'habitants, donc je veux dire, et qui sont tous en train d'acquérir une classe moyenne. Donc tu vois très bien que les Chinois, ils se disent, bon, d'accord, j'ai bâti mon développement en vendant la classe moyenne américaine et européenne, mais maintenant, ils sont fauchés, ils n'ont plus un rond, je vais aller vendre aux autres. Et donc, si on les empêche de vendre chez nous, ils vont être d'autant plus compétitifs pour vendre chez les autres, et nous, on pourra pas vendre la queue d'une cerise chez les autres, parce que alors là, on sera pas du tout compétitif sur un tiers-marché, on sera foutu. Donc, tout ça, si tu veux, c'est des... On s'imagine finalement, les Européens, que c'est toujours l'Europe et puis les autres. Et
Alors,
maintenant, les autres, ben, ils sont beaucoup plus puissants que nous, quoi.
je rebondis un petit peu donc sur ce que tu disais il y a deux paragraphes, c'est que tu as peur que tout ça, malgré tout, cet accord entre les États-Unis et la Chine ne se fasse aux dépens du vieux continent. Alors, on revient sur le fait que l'Allemagne est effectivement aujourd'hui dans une espèce de queue de comète que tu avais déjà étayée, et je vous invite à regarder les dossiers qu'on a fait, c'était quand? C'était en mai dernier, et l'année d'avant encore, qui parlait des retraites de l'Allemagne, du fait que l'Allemagne était dans un maelstrom dont elle allait avoir du mal à se relever, et on le voit aujourd'hui. Indépendamment de la pyramide des âges, qui est déjà un problème structurel en Allemagne, il y a aussi le fait que toutes leurs banques commerciales
Elles ont
sont
prêté. Si tu as prêté à
surcapitalisées.
des industries qui vont mal, tu vas mal.
Et puis c'est exactement ce que tu avais dit quand tu avais acheté, quand tu avais écrit Des lions menés par des ânes, c'est qu'au bout d'un moment, les Grecs, ils se sont retrouvés avec les Mercedes et eux, ils se retrouvent avec des papiers grecs. Donc qui a des ennuis? Les autres, ils sont ravis, ils se sont fait des autoroutes avec quatre voies, et eux, ils sont là avec une lettre de change en disant, ma foi, je me sens un petit peu con quand même. Et là, c'est un peu ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Allemands, dans ces cas-là, ils font ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire ils continuent à épargner comme des fous. Mais donc, ils consomment plus. Donc, nous, on va se retrouver avec moins d'Allemands sur les côtes Algarve. Bon, ma foi, ils vont pas traverser la France en camion, mais ça va pas aider les...
Mais voilà. Et le vrai problème, c'est que d'après tous les chiffres que je regarde, la France est déjà dans une récession qui serait particulièrement dure. Donc, si la récession est très très mauvaise en France, notre déficit budgétaire, il va pas être 6,2% du PIB, il va être, je sais pas quoi, 8 ou à 9.
Mais je pense, je pense que les chiffres ont été maquillés et que même quand on nous a annoncé 6,1, tu le sais comme moi, on était déjà à 7. Donc aujourd'hui, avec les défaillances d'entreprises qui s'enchaînent, si tu regardes les chiffres actuellement des défaillances d'entreprises des tribunaux de commerce, ça explose à la hausse, les TPE, les PME, tout ça avait réussi à vivoter avec les aides qui avaient été données pour le Covid, donc là ça explose à la hausse, et on commence à le voir aussi dans des grands plans sociaux, on a vu Michelin, et là ça va continuer pour d'autres. Et alors les gens ont l'air de se réveiller en disant mais enfin c'est pas normal, alors évidemment que fait la gauche dans ces cas-là? Il faut subventionner, bien évidemment, tue-moi une entreprise en l'empêchant de travailler, ensuite tu la subventionnes.
Hein. C'était la vieille plaisanterie de Reagan qui disait toujours... Alors, une entreprise se crée, si ça bouge, il la taxe, si ça la ralentit, il la subventionne, et si elle meurt, il la nationalise, quoi.
Mais c'est exactement ça sur Michelin. Si tu dis, dans un auditoire, combien d'entre vous a des pneus Michelin, personne va lever la main, parce qu'on achète tous des pneus chinois ou des pneus autres, qui m'a
fait. C'est pas tellement ça, bien sûr, on achète des pneus Michelin, c'est les meilleurs du monde, mais le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où t'empêches les gens de rouler en voiture,
aussi.
Imagine-toi qu'ils ont besoin de moins de pneus.
Ben oui, c'est ma foi, mais c'est bien sûr. Nous avons acheté les droits des films du plat pays.
Alors, j'entends des braves crétins qui disent qu'ils n'ont qu'à supprimer les dividendes. Mais supprimer les dividendes, ça veut dire que Michelin ne peut pas prendre son argent et aller l'investir à l'étranger s'il assurera sa survie. Donc on se retrouvera dans 3 ans avec un Michelin en faillite, aussi bien à l'étranger, et n'aura plus de société française. Donc les crétins qui disent qu'il faut supprimer les dividendes, c'est à peu près aussi crétin que de dire qu'il faut cesser de payer les ouvriers, parce que comme ça les entreprises seraient rentables. Si travailler gratuitement ces corneaux-là, on n'aurait pas de problème de surcoût de travail. Tu vois, c'est à peu près aussi intelligent, quoi. Mais s'il y a une bêtise à dire, on peut être certain que la gauche française est toujours en tête pour la soutenir avec véhémence. Quoi.
Et alors, concernant justement aujourd'hui, bon, maintenant, tu as dit, Trump a 2 ans pour véritablement charger la mule, faire avancer, tananana. Est-ce que tu penses qu'on pourrait être à la veille d'une renaissance du colosse américain?
Ben, alors, un colosse américain qui aura compris que le colosse américain dans les 20 dernières années, c'était toute la thèse de mon livre précédent, pas celui sur l'Université d'Épargne, mais le précédent, là. C'était de dire que les États-Unis, pendant un moment assez court, ont été l'hyperpuissance, c'est-à-dire la seule puissance au monde. Et ils ont tout fait, y compris tuer, massacrer, envahir, etc., pour essayer de rester la superpuissance. Là, le projet de Trump, c'est de dire, dans le fond, c'est de bâtir une forteresse américaine.
Oui, de toute façon, il est certain que les États-Unis, et ça, c'était quelque chose de très fort chez les néocons, mais et en tout cas, quand j'étais, par exemple, à l'Institut Cato, il y a déjà 8 ans, c'était déjà très fort ce mouvement isolationniste. Et des gens comme... tous les think tanks, que ce soit Heritage Foundation, tous ces think tanks sont prônent l'isolationnisme des États-Unis et le fait de se désengager de ce rôle de gendarme mondial dans lequel, entre parenthèses, il n'a pas forcément excellé ces derniers temps. Quand on revoit l'Afghanistan ou l'Irak, on peut se demander si tout ça était bien nécessaire.
Ce qui m'amuse toujours, c'est les grandes réunions où tu vois arriver les généraux américains qui ont ça me rappelle des généraux soviétiques qui ont sur leur poitrine. Mais des
oui, des petites plastronnées, oui.
De décorations. Et tu dis, c'est extraordinaire, toutes ces décorations, ils ont fait que perdre des guerres, quoi. C'est quand même étonnant, quoi. Moi, si j'avais été en Afghanistan, au Vietnam et tout, je mettrais pas le truc, parce que je suis pas sorti très heureux. Donc, il y a ça. Alors, je crois qu'il y a un mouvement de repli vers les États-Unis. Sans doute avec une tentative d'essayer de contrôler tout ou partie de l'océan Pacifique, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais ils sont en train de se demander, à l'évidence, surtout Trump d'ailleurs, si l'Europe, il n'y a pas de raison de dépenser des 100 et des 1000 l'OTAN en Europe, quoi, parce que.
Mais ce qui nous risque de nous causer d'immenses problèmes pour ce qui est l'axe de Méditerranée. Et c'est-à-dire que nos rapports avec la Turquie, nos rapports avec certains pays d'ouverture comme ça pourraient dramatiquement changer.
Si on veut tenir la Méditerranée, n'y a pas de solution autre que de faire une alliance militaire entre les marines françaises, italiennes, grecques et espagnoles. C'est-à-dire, et puis ensuite, si on pourrait se donner rendez-vous avec la marine turque à Lépante, et ça nous rappellerait des vieux souvenirs, quoi. C'est voir qui va gagner, parce que on se retrouve entre nous, quoi. Ce serait bien.
Je pense que les Grecs sont pour. Hein.
Ah oui, les Grecs, alors ils sont
déçus. Parce que tu leur dis d'aller taper sur les Turcs, ils sont devant.
Ils sont plutôt fait taper par les Turcs, les pauvres, mais ensuite.
Oui, mais c'est pour ça,
Si on gagnait à Lépante, on pourrait peut-être essayer d'aller reprendre Sainte-Sophie aussi, ça serait amusant. Bon, ben, tu vois, je veux dire, on retourne dans des vieux schémas.
Oui.
Les États-Unis ont protégé la Méditerranée, protégé, entre guillemets, la Méditerranée depuis longtemps en ayant le centre de contrôle de la Méditerranée, je crois que c'était à Naples. Eh bien, si les États-Unis s'en vont, ce centre de contrôle devrait rester à Naples, mais avec une alliance militaire des quatre pays méditerranéens, quoi. Il n'y a pas de raison que l'Allemagne vienne protéger la Méditerranée. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre?
Oui, et les Anglais dans tout ça, parce qu'ils étaient quand même très...
Les Anglais, ils contrôlent Gibraltar. Donc, il faudra se mettre d'accord avec eux. Parce que si on peut laisser rentrer des bateaux, si à Gibraltar, c'est embêtant. Donc, il faudra. Mais les Anglais, oui, oh. Il suffira. Non, c'est pas. Ils ont pas. La Méditerranée les intéresse pas tellement, mais dans la mesure où ça intéresse les Français, ça intéresse les Anglais. En tout cas, si on pouvait les faire boire, quoi, ce serait pas mal, quoi. Tu vois, c'est juste comme ça, pour garder la forme. Ils ont pas de trucs. Donc, ils sont prêts à négocier la Méditerranée contre autre chose. Cette autre chose, ce sera peut-être, d'ailleurs, cette autre chose sera peut-être qu'on arrêtera de laisser passer tous les immigrants qui vont en Angleterre.
Oui, ça c'est un problème qu'il va falloir qu'on
Ils
règle.
commenceront par pas
Et
arriver si on a la flotte qui les empêche d'arriver.
est-ce que tu as vu cette déclaration de von der Leyen qui s'est exprimée et qui a dit finalement, à la place du gaz russe, on va acheter du gaz de schiste américain. Hasard incroyable, n'est-ce pas? Oui, hasard incroyable, non?
Tu penses? Non, mais ce qui se passe, elle est bête celle-là, c'est triste. Mais ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est là qu'il faut regarder, elle est allemande cette dame. Hein. Ce qui se passe, c'est que l'industrie allemande, il y avait bien sûr les automobiles et aussi beaucoup la chimie et la chimie lourde. Et la chimie, ça n'est que de la transformation énergétique. Hein, c'est vraiment un truc. Donc aujourd'hui, le gaz américain, je crois qu'il est 6 fois moins cher que le gaz américain rendu en Europe. Hein. Tu vois, donc ce qui se passe, c'est qu'on va pas acheter du gaz américain parce que c'est pas pratique et on va simplement emmener. Les Américains vont piquer toutes les affaires chimiques allemandes et qui vont ouvrir des usines autour de Raleigh. Et donc c'est l'industrie allemande qui va s'en aller d'un seul bloc. Aux États-Unis, ce qui est d'ailleurs le rêve de Trump. Donc, on n'aura pas besoin d'importer du gaz des États-Unis, parce que les utilisateurs de gaz, ils sont tous aux États-Unis, ils sont partis d'Allemagne par les États-Unis. C'est-à-dire, on est en train d'assister au début, même ça fait un petit moment que ça dure, mais de la désindustrialisation de l'Allemagne, qui est en train d'accélérer de façon phénoménale. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que quand tu suis une politique imbécile comme avec l'euro, au début tu flingues l'Italie, puis ensuite tu flingues la France, et puis quand tu arrives à l'Allemagne, ben, ils ont plus de concurrents, ils sont devenus gras, mous, ils peuvent plus répondre, parce qu'ils ont plus de concurrence depuis longtemps, et à ce moment-là, ils se font bouffer par les Tchèques, par les Européens, par les Turcs, par tout ce qui a gardé un peu de poil aux pattes. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne est en train de payer le prix de l'euro. C'est-à-dire que son industrie est devenue inefficace.
Mais alors, à quoi tu attribues, puisque tu me reparles de l'Italie et qu'on en parlait en amont, le fait que l'Italie tire quand même, et je le constate, son épingle du jeu dernièrement?
Ben, l'Italie, elle a un avantage gigantesque, c'est qu'ils ont un énorme tissu de petites sociétés industrielles qui sont dans des niches. Et ça, comme ils sont très bons dans ce qu'ils font, et ils travaillent en réseau dans la région. Dans leur région, c'est un système à la limite corporatiste, mais qui a pris un gros coup sur la tête quand ils sont rentrés dans l'euro, mais qui s'est battu, qui s'est battu. Et là, j'étais à Milan il y a 2, 3 jours, et il est tout à fait net que tout ce corps d'industriels moyens est en train de revenir en force sur la scène mondiale, quoi. Donc, les Italiens, ils attendent pas que l'État les sorte du trou.
Mais d'ailleurs, quand on regardait il y a 2 ans les dettes en comparatif, l'Italie était dans une trappe à dettes à l'époque beaucoup plus grande que nous ne l'étions. Et aujourd'hui, même remarque de la Grèce, et aujourd'hui la France est largement devant en termes de dettes.
Ils sont passés en ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'Italie, quand tu as un excédent primaire, ça veut dire que t'as pas de déficit s'il n'y avait pas le paiement de la dette. Et comme le paiement de la dette se fait beaucoup des Italiens aux Italiens, puisqu'une grosse partie de la dette italienne est détenue par des Italiens, ce qui fait une différence avec la France.
Oui, ça on le dit souvent.
Eh bien, ça veut dire que l'Italie peut passer en compte courant excédentaire assez rapidement, ce que nous, la France, ne réussit pas à faire. Donc nous, on a attrapé une double vérole, on a notre dette à l'extérieur, et si les taux d'intérêt montent, il faut payer de plus en plus à l'extérieur, donc on a un déficit, et en plus un déficit extérieur qui va pencher dessus, alors qu'en Italie, maintenant, comme ils ont absorbé le déficit extérieur, si les taux d'intérêt montent, ils retirent un petit peu d'argent des consommateurs pour le donner à ceux qui font des économies, mais ça sort pas de l'Italie. Donc l'Italie aujourd'hui pourrait tout à fait prendre la décision de sortir de l'euro, et ils s'en porteraient pas plus mal puisqu'ils n'ont pas besoin de l'extérieur pour financer leurs dettes. Nous, on peut pas.
Je pense pas qu'ils prendront cette initiative. Je pense très honnêtement que personne ne la prendra et que la seule façon serait qu'il y ait une remontée des taux américains, qu'on soit forcé de remonter les nôtres et que cette montée des taux fasse que ça ne passe plus et que ça nous laisserait le choix, ma foi, de soit tout péter, soit passer sous le coup du FMI.
Oui, mais le coup du FMI, c'est vachement difficile, le coup du FMI, parce que ça met en cause le FMI, s'ils arrivent, ça met en cause la suprématie de la Banque Centrale Européenne. Il est hors de question que les Européens l'acceptent. La BCE ne va pas recevoir des ordres. Tu imagines les Allemands, si la BCE reçoit des ordres du FMI, ils vont commencer à... Déjà, ils sont pas contents, ça va être... Mais il me semble qu'on arrive à un moment, un petit peu un moment de vérité, où les politiques et les réalités divergent tellement entre l'Allemagne, l'Italie et la France, que on voit pas très bien. Il n'y a plus de solution qui les satisfasse les trois à la fois, quoi.
Mais moi, ce que je trouve absolument ce qu'il y a d'absolument consternant, c'est que par ailleurs, en politique interne, aucun homme politique ne s'empare de ces questions-là. Et on entend un petit bruit de fond qui est fait de glapissements sur les uns et les autres, ce qui s'est passé cette semaine, qui lui a pas tenu la porte, qui lui a mal parlé, qu'il l'a traité de conne, parce que c'est le truc du jour avec...
C'est vraiment bon. Les gars.
Oui, encore une fois, on parle du sexe des anges à Constantinople.
Le sexe des anges quand les gars grimpent les murs de Constantinople, quoi.
Et personne ne...
C'est la grande analyse de Toynbee qui disait que les pays s'écroulaient quand les élites étaient incapables de répondre aux défis du piquet exposé au pays. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis 40 ans, nous, on avait eu un gros problème avec l'Allemagne. Tout le problème de l'Europe pendant 2 ans, c'était de les guerres entre la France et l'Allemagne. Donc, on avait trouvé la solution qui était celle de l'Europe, qui elle-même a amené à des problèmes. Et une fois qu'on a eu ces problèmes, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? De retourner à l'Europe. Mais c'était plus du tout le problème, parce que c'était justement trop d'Europe qui nous tuait. Donc, on a créé une élite qui, quand il y a un problème, se met immédiatement à sauter sur leur chaise en disant l'Europe, 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 comme des cabris, comme disait De Gaulle. Mais il dit c'est ça la solution, mais c'est pas la solution. Il y a d'autres problèmes qui n'ont plus rien à voir avec le problème de la guerre entre la France et l'Allemagne. Mais si ça continue, on va se remettre sur la gueule avec les Allemands, d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de créer les conditions d'un effondrement de ce qui était une solution au problème précédent, mais qui ne l'est plus du tout pour le problème d'aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une classe politique qui pense que l'argent, ça pousse sur les murs, quoi, ou dans les arbres, mais qu'il faut pas le gagner.
Mais de fait, de toute façon, on a une classe politique, et ça on l'a dit suffisamment de fois, qui est née de et ça c'est un vrai problème en France, de castes corporatistes que sont l'ENA, Normal Sup, Inspecteur des Finances.
Et qui sont tous aux fonctionnaires.
Et qui sont tous aux fonctionnaires, c'est-à-dire ils perçoivent, quand ils se présentent à des élections, ils continuent à percevoir leur salaire, ce qui fait qu'il n'y a aucune prise de risque. Comme dit Nassim Nicolas Taïeb, no skin in the game. Et de cette non-prise de risque fait que cette caste, ma foi, veille toujours à arrondir les angles.
Cette caste, qui est un bon nom, ou cette classe, au sens marxiste du terme, essaye de trouver des solutions qui protégeront son statut de caste privilégiée. Mais le problème, c'est justement qu'il existe en France une caste privilégiée. Et donc, tu vas pas demander à ceux qui sont le problème de trouver une solution au problème, c'est idiot. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est de leur enlever le pouvoir politique, et ça, on peut le faire que par un référendum d'initiative populaire ou par une révolution. Mais à ce moment-là, on sait jamais. On sait comment ça commence, ces révolutions, mais on ne sait pas comment ça se termine. Hein.
Mais par ailleurs, là où c'est quand même une immense bonne nouvelle, et là je reviens sur l'élection de Trump, mais cela dit, c'est cette histoire de caste, c'est que ça va être aussi peut-être une mise à mal, enfin en tout cas une banderie dans le mouvement woke. C'est-à-dire que là, on va peut-être enfin avoir une fin de non-recevoir en disant écoutez là, les conneries, ça suffit, la chienlit, ça suffit, toutes les Greta Thunberg de ce monde, ça suffit, parce que le peuple a voté pour dire walk no
Absolument. Mais
more.
il a fait un discours hier, là. Les 10 mesures qu'il comptait prendre, mais tout de suite, dès qu'il sera le premier jour au pouvoir. Et il y en a deux que j'ai trouvé particulièrement bienvenues, c'est que toutes les universités qui continueront à enseigner les conneries woke n'auront plus de
De
subventions
subventions.
étatiques. Terminé. Tous les gens qui continueront à se battre sur cette histoire de le sexe, quelque chose qu'on choisit, et pas quelque chose qui vous est imposé à la naissance. Boum, ils sont aussi virés. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que d'interdire complètement toutes les transformations physiques faites sur des mineurs.
Oui, mais ça, c'était un scandale. Je trouve ça absolument incroyable qu'on soit dans des pays où tu n'as pas le droit de voter avant 18 ans, tu n'as pas le droit de boire avant 21, mais tu pourrais changer ton sexe. Enfin, je veux dire, c'est avec la
Ils sont mal à
lourdeur
l'école à 15
hormonale.
ans. Mais tout le monde se sent mal à l'école à 15 ans, ça va pas, non?
Oui, c'est si tu te sens bien que c'est. Oui, bien sûr. Ces gens sont fous.
Donc c'est très important parce que c'est une défaite. Tu vois, il y a plusieurs immenses défaites qui sont produites là. Il y a d'abord une défaite de cet ethos mondialiste représenté par Harari et tous ces gars-là. Donc on allait inéluctablement vers un gouvernement mondial. Bon, ça c'est la grosse connerie qui vient de s'écrouler. Deuxièmement, on n'avait pas besoin de démocratie, il fallait simplement qu'on ait des juges. Que les juges, en particulier les juges internationaux, allaient dire le bon, le bien, etc. Bon, mais ça, c'est déjà, on est en train de dire allez vous faire cuire un œuf. On n'a pas besoin de juges, on a besoin de pouvoir changer les gars qui nous gouvernent. Ça c'est aussi, donc c'est l'écroulement du pouvoir des juges, c'est l'écroulement du mouvement mondialiste, et ces mouvements étaient portés par une alliance des minorités. C'est-à-dire que tu faisais, c'était le grand test d'Obama, tu faisais l'addition des LGBTQ, des Noirs qui avaient qu'un pied, des Jaunes qui avaient qu'une main, tu vois, toutes les minorités, tu faisais étudier, et puis avec ça, tu réussissais à poser ta volonté en majorité. Et là, il vient d'avoir une espèce de révolte totale de la majorité, en disant, si ça vous fait rien, jusqu'à plus ample informé, c'est la majorité qui décide de la direction et c'est pas une assemblée de minorités. Et là aussi, ça vient d'être. Et ça, les types de gauche, ils en restent comme de ronds de flanc parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Cette espèce de réveil de la majorité, ils s'y attendaient pas du tout. Ils ont pas compris, ils comprennent toujours pas. Tu les écoutes, d'ailleurs, ils comprennent rien.
Non, mais c'est formidable parce que c'est en même temps le signe vraiment patent de leur complète déconnexion vis-à-vis du
Absolument. Mais
peuple.
d'ailleurs, ils disent, ce qu'il y a de terrible, vous voyez, c'est que les hommes latinos ou les hommes noirs, ils sont sexistes.
Ouais.
Ils ont voté contre Kamala parce que c'était une femme.
Non, les gens n'ont pas voté pour Kamala parce que c'est une femme, ils n'ont juste pas voté pour elle parce que c'est une dinde. Le fait qu'elle soit une femme est complètement accessoire.
Et qui s'en sont rendus compte.
Et que, voilà, je pense que tout le
Ils l'ont
monde s'est
écouté
rendu
deux
compte que
fois, ils
c'était
se
une
sont dit, mais
dinde.
qui c'est cette dinde? Et donc, pour expliquer leur défaite, pour que tu puisses analyser une défaite ou une gamelle que tu as prise dans la vie, etc., il faut que tu commences par t'analyser toi et voir où tu es mis à penser de travers. Ces gens-là refusent de s'analyser eux-mêmes et de voir en quoi ils ont pensé de travers. Ils pensent que c'est les autres qui pensent de travers. Mais si tu penses que c'est les autres qui pensent de travers, à ce moment-là, la seule solution, c'est pour toi de prendre le pouvoir et de mettre des camps et des miradors. Parce qu'il faut les rééduquer. Donc derrière la gauche aujourd'hui, il y a une espèce de tentation latente de miradors. Parce que t'as qu'à écouter Anne Sinclair aujourd'hui, tu t'écroules de rire de cette dame expliquant ce que c'est que pourquoi Trump est une abomination. Pourtant, elle en a connu des hommes salopards dans sa vie, hein. Mais c'est parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais et donc tu te dis, mais enfin cette bonne femme, elle peut pas réfléchir 2 minutes?
Non, mais je trouve ça absolument incroyable même que les médias français nous imposent cette purge, nous imposent Anne Sinclair en donneuse de bonnes leçons.
Ben oui,
Voilà.
c'est comme quand ce brave Strauss-Kahn était venu nous expliquer qu'il fallait voter contre Le Pen au deuxième tour, quoi. Tu te disais, mais dis-moi un moment, rappelle-moi d'où tu viens et d'où tu parles, quoi. Donc, on sent cette espèce de... C'est la vieille blague de Bertolt Brecht, là. Tu sais, le
Oui,
peuple a
il faut
dissous le Parti
dissoudre le peuple.
communiste. Il faut dissoudre le peuple. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de changer de peuple, mais c'est parce que ce peuple-là les agace.
Bah, ils lui font suffisamment sentir qu'on sent des pieds, oui. Écoute, c'est formidable. On a fait un bon petit tour, en tout cas, là, de cette élection. Je ne veux pas empiéter trop sur la partie qui va être celle de Léonard. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là, qu'on s'en garde pour demain pour l'UDE, parce que demain, on fera une émission
Parce que
pour
ça a
les...
beaucoup d'influence sur tout ce qui va se passer dans le monde de l'énergie et tout. Et ce qui est très intéressant, et on en reparlera demain, je suis sûr, mais la vérité, c'est que tout ce qui est ESG, ça vient d'exploser.
Oui, je pense aussi, avec tous les critères de
Tous
débile.
ces investissements imbéciles qui allaient dans un truc qui servait à rien, c'est en train d'exploser. Donc, il va y avoir du vrai pognon qui, enfin libéré, va pouvoir aller vers les vrais investissements.
Ok. Eh ben, je te dis merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Tu seras là pour de vrai.
Voilà, je serai là la semaine prochaine, j'arrive lundi.
Ok, super. Eh ben, on dit merci beaucoup à Charles et à très bientôt.
À
Bisous.
très
Merci
bientôt,
à
merci
tous.
encore.